siècle, c'est le camp de rééducation. C'est-à-dire les remettre les pendules à l'heure, et c'est les enfants qui deviennent les parents de leurs parents. Tout ça, ça naît avec cette image du progrès. Donc l'idéal de la science, c'est central. S'il n'y avait pas eu la possibilité à tout moment de se référer à un modèle qui fait autorité, à l'autorité de l'expert, et n'importe quel débat de société, sur le plateau, prolifèrent les experts en ceci et en cela, et être expert, ça veut dire, je parle en tant qu'expert, vous n'avez rien à dire, ou rien à ajouter. Quand les hommes politiques parlent au nom de l'expertise, quand ils prennent une baffe aux élections, c'est pas qu'ils avaient tort, mais qu'ils se sont mal expliqués. Ils ont été de mauvais profs, c'est la seule autocritique permise, mais je parlais en tant qu'expert, au pire, j'ai été un mauvais prof. Mais si l'idéal de la science est donc central en Occident, ma thèse, c'est que c'est pas à partir de lui que, de manière simple, se sont enchaînés les phénomènes qui conduisent au monde dans lequel nous sommes. En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Si les élites intellectuelles du temps ont exploité aussi rapidement le modèle de la science pour régler les problèmes politiques, c'est parce que au XVIIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, à cette époque-là, le problème politique se posait sous des formes inédites et réellement dramatiques. Effectivement, ma thèse, c'est que parmi tous les facteurs, j'avais dit qu'il n'y en avait qu'un seul, mais parmi tous les facteurs dont la conjonction accidentelle va produire l'entrée en modernité, le fameux compromis moderne, le rôle que je dirais surdéterminant et catalysant, c'est certainement l'ampleur et la profondeur du traumatisme qui a été provoqué par la radicalité et la durée des guerres du temps. Le grand spécialiste du problème des guerres du temps, puisque tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, la guerre est l'horizon quotidien de la vie des hommes. C'est une sorte de Liban à l'échelle de l'Europe étalée sur deux siècles. Voilà ce que c'est que la vie des gens du XVIe et du XVIIe siècle. Le grand spécialiste Georges Livet dit « Tous les écrits de l'époque soupirent après la paix ». C'est le grand thème des textes politiques du XVIe et XVIIe siècle. Effectivement, les guerres du temps ont deux traits inédits. D'abord, elles sont, du fait de l'invention des armes nouvelles, de plus en plus dévastatrices et meurtrières. C'est un point que certains contestent parfois, mais par exemple Livet signale, ça ne peut pas ne pas avoir eu des effets politiques, que au sortir du XVIIe siècle, la noblesse française est décimée par deux siècles de guerre, de religion et de guerre internationale, comme la guerre de 30 ans, surdéterminée par des querelles religieuses. Ça jouait dans le phénomène. Pas oublier qu'en dehors de la guerre, je voudrais quand même signaler quelque chose, je l'ai mis dans les livres, mais je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça. Traditionnellement, depuis Thucydide, on met la guerre et l'épidémie, la peste, par exemple, comme un fléau qui produit des effets analogues en désorganisant les sociétés, il faudra un jour qu'on s'interroge sur cette peste noire qui ravage l'Europe, et pour autant qu'on puisse calculer, avec la variation évidemment varie, on a les statistiques de l'époque de l'INSEE, qui sont déjà les mêmes problématiques, mais on dit qu'un tiers des Européens est mort dans la peste noire. Si vous ajoutez après le phénomène des guerres de religion, guerre, 30 ans de l'époque, vous imaginez à quel point la société va être désorganisée, les rapports de filiation remis en question. Mais surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est pas n'importe quelle guerre qui apparaît à cette époque, c'est une forme de guerre entièrement nouvelle à ce degré d'intensité. Quelques équivalents dans la guerre senti, c'est la guerre civile idéologique. Et dont la forme à l'époque, il y en a d'autres, c'est la guerre de religion. Or, la guerre civile n'est pas une guerre comme les autres, et on sait qu'elle ne modifie pas simplement la forme des combats, mais la nature des rapports humains. Pascal, de même que son collaborateur Nicole à Port-Royal, dira que c'est le plus grand des maux. Ça, c'est un thème récurrent. Hobbes, c'est la même chose. Tout le monde le dit à l'époque. Et pourquoi c'est le plus grand des maux? Parce qu'à la rigueur, une guerre traditionnelle, ça peut produire de l'union sacrée. Ça peut produire une manière de resserrer les liens. C'est pas forcément désocialisant. Tandis qu'une guerre civile, par définition, elle va porter le fer de la division partout. Elle va opposer les parents, briser les amitiés, opposer les voisins les uns aux autres. Je dis toujours le célèbre tableau de Carandache pendant l'affaire Dreyfus, les deux fameux tableaux, premier tableau, nous n'en parlerons pas, c'est la réunion de famille, tout le monde se met gaiement à table. Et le deuxième tableau, la gare générale et le commentaire, ils en ont parlé. C'est-à-dire que la guerre civile, hein, nous en avons des exemples réguliers dans l'actualité, a cet effet désocialisant extraordinaire, elle détruit toutes ces formes de solidarité fondées sur le don et le contre-don qui sont à la base de la vie locale, de quartier, du village, etc. Et un exemple très clair, c'est que quand Corneille, on ne peut pas le supposer, c'est pas le pacifiste auquel on pense d'habitude. Corneille, c'est des guerrières, le Cid, etc. Mais quand il parle de la guerre civile, alors là, c'est fini. C'est le règne du crime. C'est un autre monde, et c'est à partir de là que, évidemment, le problème va se poser. Parce que ma thèse, c'est que, de toute évidence, cette hantise de la guerre civile, c'est à partir d'elle qu'il faut comprendre ce que devient la philosophie à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Tous les penseurs de l'époque, et notamment ceux qui sont d'origine protestante, qui fonderont un grand contingent de théoriciens du libéralisme, intéressant d'étudier le rapport entre les libéraux et les protestants, mais enfin c'est vu qu'en libéralisme est plus, donc c'est normal qu'ils soient particulièrement sensibles en tant que minoritaires à la situation de la guerre civile, eh bien, c'est pas par hasard si, quand ces philosophes décrivent l'état de nature, et imaginez l'image qu'on a de l'homme quand on est plongé depuis des décennies dans la guerre civile. Essayez d'imaginer à travers le livre d'Asfeld l'image qu'on fait de la nature humaine quand on est un habitant du Rwanda. Quelle image de Tutsi peut-il fabriquer de la nature humaine? Cette image noire, elle est à la base de la théorie de l'état de nature qui finit toujours, soit de manière originelle et dérivée, par la guerre de tous contre tous. Hobbes est le plus célèbre, mais c'est un thème classique à l'époque, et pour moi, il est évident que cette guerre de tous contre tous, c'est simplement la transposition philosophique de ces situations de guerre civile, mais qui est poussée par hypothèse. Les philosophes adorent faire des expériences de pensée, des passages à la limite, on appelle ça un mouvement hyperbolique. Elle est poussée par l'hypothèse jusqu'au point où les individus seraient supposés libres de toute allégeance les uns envers les autres et n'auraient plus d'autre valeur à défendre que la concertation de leur propre vie, dans un univers marqué par la peur de mourir et la méfiance généralisée des uns envers les autres. Je signale d'ailleurs dans mon livre quelque chose d'assez étonnant, mais ce société libérale qui se veut très rationnel et scientifique a ses propres mythes fondateurs, et ces mythes sont toujours des récits hyperboliques fondés sur des passages à la limite. Pour installer les dispositifs modernes, on part d'une hypothèse d'état de nature où la violence serait absolue. Mais quand vous pensez à Descartes, pour arriver à fonder les valeurs philosophiques centrales de la philosophie moderne, le moi et du cogito, je pars d'un doute absolu, l'argument du rêve et du mal de génie, et je pars toujours d'expériences absolues poussées à la limite pour arriver à construire les schémas sur lesquels la philosophie et la politique se fondent. Or, si vous partez de cette manière de poser le problème, la solution, elle est quasiment incluse dans les données du problème. Là, je prends les termes de Rousseau. Rousseau dit, en disant, c'est quand il dit, c'est seulement, d'abord, la citation exacte, je commence à présenter la citation, c'est seulement comme quand les rapports de violence entre les individus engendré par le déchaînement sans fin de la guerre de tous contre tous, et là on se dit, l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état, que ces individus comprennent que maintenant, le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. Donc, l'arrière-plan de la philosophie moderne, c'est cette guerre de tous contre tous qui est l'écho des guerres civiles du temps, et ça explique le climat psychologique et philosophique dans lesquels les débats se construisent à partir du XVIIe siècle. C'est quoi l'horizon philosophique de l'époque? La crainte de la mort violente. Ça devient quelque chose de fondamental. Tout Hobbes est là, c'est la crainte de la mort qui nous rend rationnel. La peur de mourir va devenir une valeur centrale de l'occidental. La méfiance envers les proches. Je ne peux avoir confiance qu'en moi-même. Le rejet de tous les fanatismes idéologiques et le désir d'une vie enfin tranquille et pacifiée. C'est ça, le fondement historique réel de cette nouvelle manière d'être que nous, les modernes, nous n'allons depuis jamais cesser de revendiquer. Tandis que pour les philosophes du temps, c'est une même, c'est la même chose que d'inventer la nouvelle société conforme à la raison et de définir les conditions qui permettront enfin de sortir de la guerre. Et, en d'autres termes, si on ne comprend pas à quel point ce refoulement de tout ce qui entoure la mort et ce sentiment profondément pacifiste est essentiel dans la genèse du libéralisme, on passe à côté de tout. Le libéralisme a plusieurs générations, on y reviendra. Au départ, c'est la guerre de religion. Mais chez Benjamin Constant, ça sera plutôt la terreur jacobine. Mais c'est à nouveau une guerre civile idéologique fratricide et qui oppose les uns aux autres. Et d'ailleurs, le schéma le même, Benjamin Constant dit son fondement mal, les massacres de septembre, c'est la Saint-Barthélemy. Et c'est le même mécanisme qui est la hantise des philosophes du temps. Et donc, une philosophie qui cherche par tous les moyens à rétablir enfin cette paix civile, cette tranquillité désirable, et dans ce monde, évidemment, la seule guerre, le seul usage du mot guerre qu'on pourra conserver, c'est celui que Beccaria, un des grands libéraux du temps, appellera la guerre d'industrie, c'est-à-dire la guerre contre la nature, conduite avec les armes de la science, de la technologie et de l'industrie, dont justement on attend qu'elle détourne vers le travail et l'industrie toutes les énergies qui étaient jusque-là consacrées à la guerre. Nietzsche l'a très bien compris. Il dit, dans une société où la divinité suprême est le besoin de sécurité, c'est ça, le 17e siècle, eh bien, le travail est la meilleure des polices. Il faut bien voir que la valorisation du travail, de la technologie et de l'industrie va être une manière de dévier les énergies guerrières et les passions idéologiques vers un ennemi sur le dos duquel on va se réconcilier, la nature. Il explique peut-être qu'il y a aussi dans le développement de la modernité en puissance la crise écologique à venir, puisque compte l'écrit noir sur blanc, la guerre de l'homme contre l'homme sera abolie toujours où les hommes se réconcilieront sur le dos de la nature afin de l'exploiter et d'en devenir les maîtres et les possesseurs. Si on accepte ces analyses, il devient du coup beaucoup plus facile de saisir l'originalité du projet moderne et son anthropologie et deux figures du libéralisme dont je dis qu'ils sont, qu'on doit les unifier. Dans un essai tout à fait remarquable, un historien qui s'appelle Eric Desmonds avait bien montré comment, pour le meilleur et pour le pire, je ne fais pas du tout un éloge de ces traditions, mais il montrait comment dans toutes les sociétés traditionnelles, celles où les gens existent d'abord en face à face, eh bien, le sens de l'honneur et la capacité de mourir pour sa communauté d'appartenance étaient officiellement la valeur fondamentale. Du guerrier primitif des tribus indiennes au citoyen de la Rome antique, du martyr de la foi chrétienne au chevalier médiéval ou au patriote florentin, cette disposition au sacrifice ultime, mourir pour la patrie, ainsi d'une sorte, comme des grands foules, ici belle au mort, eh bien, c'était pour le meilleur et pour le pire ce qui fondait l'estime de soi et qui nous garantissait une gloire éternelle, qu'elle soit profane ou sacrée. Eh bien, ceux qui connaissent la dialectique du maître et de l'esclave, on dirait que, à l'image de l'esclave hégélien, c'est-à-dire celui qui, à un moment donné, a tremblé pour sa vie et a préféré vivre comme esclave plutôt que de la sacrifier. Eh bien, la modernité occidentale est la première civilisation de l'histoire qui a entrepris, on n'en a pas d'autre, de faire de la conservation de soi, chaque individu, le premier, voire l'unique souci de l'individu raisonnable et l'idéal fondateur de la société moderne. Je ne dis pas que c'est mal, a priori. Songez, par exemple, à quel point nous sommes horrifiés par la figure du kamikaze ou du terroriste que l'occidental a tant de mal à comprendre. Une des raisons du choc du 11 septembre, c'est aussi pour une société moderne et libérale, cet étonnement anthropologique. Nous sommes une civilisation qui a fait de la conservation de soi le souci premier, à nous, notre peur de mourir, de vieillir, etc. Et voilà des gens qui balancent un avion effectivement sans être obsédés par le botox, le lifting, etc. etc. Je ne justifie pas du tout, mais voilà une des racines de ce grand traumatisme qui va travailler l'Amérique depuis ce temps. Et